Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La guerre au Moyen-Orient a aussi des conséquences dans les magasins. Vous allez voir avec des ventes en baisse de 5% au mois de mars après les chiffres qu'on vous révèle ce matin sur RMC. Une question, ce matin, les discussions historiques vont-elles reprendre avec les dirigeants d'Israël et du Liban? C'est ce qu'affirme Donald Trump ce matin. Et vous allez voir aussi que le maire d'une commune des Côtes d'Armor a passé la nuit en prison, mis en examen après la mort d'une habitante qu'il a voulu hospitaliser de force la semaine dernière. RMC est sur place.
Le constat ce matin, c'est que les Français font attention à la moindre dépense.
Avec la crise au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix des carburants et qui entraîne même une baisse des ventes d'environ 5% donc en mars sur un an. Dans les commerces du réseau Procos, qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC, Cassandre Aubron parle là de l'alimentation, des jouets, d'immobilier, vraiment de tout.
Oui, et d'abord, les enseignes de l'habillement, elles enregistrent une baisse de 4,4% de leur chiffre d'affaires en magasin par rapport à l'année dernière. Pour Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, c'est en lien direct avec la hausse du prix des carburants et la situation internationale.
Il y a un climat pesant lié au Moyen-Orient qui fait que les Français qui sont peut-être pas dans les grandes agglomérations, mais qui sont dans les villes moyennes, qui ont besoin de leur voiture, commencent à arbitrer leurs achats et à s'inquiéter pour leur consommation future.
Et à cela s'ajoutent, selon lui, les touristes internationaux, notamment originaires du Moyen-Orient, qui ont moins voyagé. Dans les magasins de bricolage aussi, les clients se font plus rares dans les allées, ils reportent leurs travaux, achètent l'essentiel, me raconte un vendeur d'une célèbre enseigne. Une baisse de la fréquentation confirmée par la Confédération nationale de l'équipement du foyer, qui observe aussi une baisse du panier moyen. Et d'après un sondage Elab pour BFM TV publié hier, un Français sur trois a renoncé à faire du shopping en raison de la hausse du prix des carburants.
Alors le gouvernement à ce sujet avait émis l'idée d'encadrer les marges des distributeurs qui s'en offusquent depuis hier. Finalement, aucune décision n'a été prise. Hein. Voilà ce qu'assure le gouvernement qui, d'après BFM TV, a écrit à la Commission européenne pour lui demander une enquête sur les marges des raffineurs depuis le début de la guerre. On en est à 48 jours. Ce matin, l'Iran menace de bloquer la mer Rouge si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus maritime en amont du détroit d'Ormuz. Alors l'information majeure, Romain, que vous allez nous la détailler pour RMC, c'est que les discussions entre Israël et le Liban, certainement directement avec les dirigeants, doivent reprendre aujourd'hui, si on en croit la dernière sortie de Donald Trump.
Oui, le président américain s'en réjouit même sur ses réseaux sociaux. Voilà 34 ans que les deux dirigeants ne s'étaient pas parlé, écrit-il. Ça va se faire, great, super. Mais le président américain, comme à son habitude, s'est-il emballé trop vite. À l'instant, une source officielle libanaise dit ne pas être au courant d'un prochain contact avec Israël. D'ailleurs, Donald Trump n'avait pas non plus précisé qui allait se parler exactement, les premiers ministres, les présidents. Ce que dit le président américain, c'est que ces discussions font suite au premier pourparlers direct mardi entre le Liban et Israël. La question la plus urgente est la suivante: y aura-t-il un cessez-le-feu? Depuis début mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 2000 morts et 1 million de déplacés. Le cabinet de Benjamin Netanyahou affirmait hier étudier cette hypothèse. Le premier ministre israélien qui a en tout cas posé des conditions hier soir dans une allocution télévisée. L'objectif numéro 1 des négociations avec le Liban, c'est le démantèlement du Hezbollah, le mouvement chiite terroriste qui a déclenché les hostilités en s'alliant à l'Iran pour frapper Israël. Lui ne veut pas entendre parler de négociations associant ce dialogue, je cite, à une capitulation.
Et Israël ne veut pas de la France dans ces négociations, ce qui donne lieu d'ailleurs à une joute verbale entre diplomatie française et israélienne. Et alors c'est dans ce contexte qu'il va encore y avoir certainement des secousses à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où sera examinée la proposition de loi déposée par la députée Renaissance Caroline Yadan, soutenue par le gouvernement et visant, je cite là, à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Mais alors cette loi, ce projet de loi, cette proposition est très critiquée, hein, Sonia Gobry du service politique à RMC. La gauche y voit une censure de la critique envers Israël et même une partie du bloc central est contre ce texte. Ça va peut-être bien s'ajouter à la liste de tous les camouflés pour le gouvernement depuis le début de la semaine.
Le plus ouvertement opposé, c'est le MoDem. Les contours de ce texte sont trop flous, reproche le chef de file du groupe, Marc Fesneau.
Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être ferme, clair et avoir des terminologies qui soient précises. Manifestement outrancière. Dès qu'il y a du flou dans une loi, il n'y a pas de loi.
Pour l'élu centriste, cette proposition de loi vient nourrir un amalgame entre juifs de France et politique israélienne. Marc Fesneau estime que le texte dessert la lutte contre l'antisémitisme et met de l'huile sur le feu.
À chaque fois qu'on a des textes comme ça, c'est pas serein. Ça s'est toujours fini en pugilat. Alors je sais pas à quoi on gagne. On sert une tribune tribune à M. Mélenchon.
Hors micro, certains députés Renaissance confient leur malaise, même si le texte émane de l'une d'entre eux, Caroline Yadan. Pour elle, ceux qui voteront contre sa proposition de loi cèdent à la pression de LFI.
Je comprends les inquiétudes, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on touche en fait à quelque chose de sacré, qui est la liberté d'expression, mais comme je vous l'ai dit, ce texte n'empêche pas la critique d'Israël.
Mais preuve du remous, à mots couverts, des députés de gauche comme de droite laissent entendre qu'ils ne regretteraient pas que le programme chargé de l'Assemblée conduise à un report de l'examen de ce texte.
Alors ce matin, ce sont des écrivains qui mènent une fondre. 115 auteurs signent une lettre dans laquelle ils annoncent leur départ de la maison d'édition Grasset, qui appartient au groupe Bolloré. Célestin Bougère pour RMC, il nous explique que c'est pour s'opposer au licenciement du patron historique.
Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Becbédé ou encore Vanessa Springora. Tous ces auteurs de poids ont claqué la porte. Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail soient sa propriété. Les 115 auteurs reprochent à Vincent Bolloré l'éviction d'Olivier Nora, en poste depuis 26 ans à la tête de la maison Grasset. Aucune raison n'a été donnée officiellement pour expliquer le départ de cet éditeur respecté, mais on savait que les deux hommes avaient de profonds désaccords. Olivier Nora s'était porté garant de l'indépendance de Grasset après le rachat de sa maison mère, le groupe Hachette, par Vincent Bolloré il y a 3 ans. Dans une lettre, les 115 auteurs disent refuser d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. C'est Jean-Christophe Thierry, PDG de Louis Hachette Group et homme de confiance de Vincent Bolloré, qui doit succéder à Olivier Nora à la tête de Grasset.
Il est 8h06 et on en parlait un petit peu plus tôt dans la matinée sur RMC. On apprend donc ce matin que le maire de Plouane, commune des Côtes d'Armor, a été mis en examen et écroué une semaine après avoir voulu hospitaliser de force une habitante de 66 ans qui est décédée depuis. Maintenue au sol pendant 15 minutes et même les jambes attachées à l'aide d'une corde, selon les mots du procureur de Saint-Malo. Le village tout entier cherche depuis à comprendre, nous dit Constance Bostoen du service police-justice à RMC.
Derrière le bar de son PMU, Christophe, le gérant connaissait bien Catherine, la sexagénaire qui est décédée.
Elle venait me voir moins une fois par jour, venir chercher ses cigarettes, ses feuilles ou boire un petit café.
Mais selon lui, depuis quelques temps, elle était devenue plus agressive, comme l'explique aussi Emmanuel, une habitante.
On voyait qu'elle était un peu perturbée, qu'elle était plus excité que d'habitude.
Un comportement qui pousse le maire, son adjoint et deux autres personnes à intervenir à son domicile la semaine dernière avec l'objectif de la faire interner en psychiatrie. Pendant 15 minutes, ils la maintiennent au sol, lui attachent les jambes. Selon l'autopsie, c'est cette intervention qui coûte la vie à la sexagénaire. Lundi, tous sont placés en garde à vue, mais ici, beaucoup, comme Christian, estiment que les deals n'avaient pas de mauvaises intentions.
C'était dans un esprit de vouloir le bien de sa ville qui est intervenu.
Aucun arrêté municipal d'hospitalisation sous la contrainte n'avait été pris par le maire de Plouane. Pour autant, pour Jean-Claude Barbet, le deuxième adjoint de la commune, pas question de ne pas soutenir le maire.
C'est un maire qui a fait des bonnes actions par le passé et au présent, mais il a cédé sous la pression des riverains.
Une enquête est en cours pour violence volontaire ayant entraîné la mort et la famille de la victime a porté plainte.
C'est le Bayern qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va arriver très très vite, hein. Vous pouvez déjà noter les dates. Match aller le 28 avril à Paris, match retour le 6 mai à Munich où le Bayern a éliminé le Real hier soir en gagnant 4-3, match incroyable. Les Français sont fait remarquer en bien pour Mbappé et Olise qui ont marqué, en mal pour Kamavinga qui a été expulsé. Et l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions va opposer l'Atlético à Arsenal. Et alors ce soir, c'est Strasbourg qui sera condamné à l'exploit pour remonter un écart de 2 buts face aux Allemands de Mayence. Ça, c'est le quart de finale retour de Conference League et ce sera à vivre évidemment à 21h sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet.